Maintenant, je voudrais venir au sujet qui nous préoccupe ce matin. Enfin, peut-être que ce que vous allez entendre ce matin, c'est évident, ça coule de source. Mais, alors, si tout cela, vous l'avez déjà entendu, même plusieurs fois, eh bien, il est bon de réentendre certaines choses parce que nous avons parfois un cœur oublieux. Donc, une révision ne fait pas de mal. Donc, nous sommes dans une société, enfin, vous en êtes aperçu, qui communique en permanence. Bon, moi, j'ai quelques difficultés à manipuler ces engins-là. Hein, Chantal, mais bon. Mais je fais des efforts. Et cependant, l'être humain n'a jamais été aussi seul. C'est un paradoxe. Parfois, j'ai entendu dans l'Église de Jésus-Christ, pas ici à Mérugin-Mer, parce que je ne suis pas souvent parmi vous, mais évidemment, c'est ailleurs que j'entends ces choses-là. Dieu pour tous et chacun pour soi. Ou alors, oh, de toute façon, pour bien vivre, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors moi, qui suis curieux, j'ai été voir quel verset c'était. Il n'y a pas de référence biblique pour ces propos. Dans les Écritures, et principalement dans le Nouveau Testament, il y a l'expression « les uns les autres » qui est citée au moins 25 fois. Ça veut dire que c'est important. Vous avez bien fait d'être là ce matin, parce que j'ai finalement une excellente nouvelle pour chacun. Par exemple, dans l'épître de Jean, de 1 Jean, au chapitre 4 et verset 8, nous pouvons lire « Dieu est amour ». Et son projet est de nous sortir, mais je dirais même mieux, de nous guérir de toute haine, de toute colère, de toute amertume, de toute jalousie, de toute convoitise, pour que nous puissions vraiment vivre dans l'amour pour lui. Alors je sais que certains pensent que oh ben, aimer Dieu, ce n'est pas un problème. Moi, j'aime Dieu. Quelle belle blague, on ne le voit pas. C'est facile de dire de quelqu'un qu'on l'aime alors qu'on ne le voit pas. Mais celui ou celle-là qui est à côté de vous, ce n'est pas évident. Et surtout, si je ne peux pas le voir en peinture. Mais Dieu nous demande d'avoir de l'amour pour lui, c'est-à-dire l'amour vertical, et d'avoir de l'amour horizontal. Oui, mais vous pouvez toucher votre voisin et lui faire ça. Je t'aime, mon frère, je t'aime, ma soeur. Ne t'inquiète pas, moi je t'aime. Mais attention, il ne faut pas que ça soit suivi, après les paroles, il faut que ça soit suivi d'actes. Parce que sinon, c'est du vent. Bon. Alors, le lieu par excellence où l'amour doit être à un très haut niveau et que Dieu bâtit, que Dieu construit, c'est l'Église. Je ne parle pas de bâtiment. Mais je parle là de croyants qui sont nés de nouveau, qui ont été pardonnés de leurs péchés, qui ont placé leur foi en Christ et qui vivent un amour entier pour Dieu et les uns pour les autres. Alors le thème de ma réflexion ce matin, c'est « Veillons les uns sur les autres ». Je reconnais que c'est tout un programme et que ce matin, nous n'aurons pas le temps de faire tout le tour. Je vais juste, survoler ce sujet. Mais c'est à vous après de continuer, de poursuivre. Donc si nous vivons à fond à cela dans l'Église, dans toutes nos relations, je crois que nous vivrons dans un amour fort les uns pour les autres. J'aimerais répondre à 3 questions pour bien comprendre ce sujet et le vivre au quotidien. La première question. Que veut dire, en fait, veillons les uns sur les autres? Puis deuxième question, pourquoi veiller les uns sur les autres? Et troisième question, comment veiller les uns sur les autres? Alors, pour répondre à ces questions, bien sûr, on va se tourner vers ce que dit les Écritures. Et d'abord, lisons dans l'Évangile de l'Épître aux Hébreux. Ah oui? L'épître des Hébreux, le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Oui, Donc l'épître de Zébreux, c'est une bonne nouvelle. Bon, je corrige parce que je vois qu'il y en a qui... Bon. Donc Hébreux 10, versets 23 à 25. Hébreux 10, versets 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, première question, que veut dire « veillons les uns sur les autres » ? Le cadre de cette exhortation, c'est l'Église, je le rappelle. Mais nous pouvons la vivre dans d'autres cadres relationnels. Par exemple, dans le foyer, dans le couple, dans la famille, même au travail, et sur le chantier au 106. C'est une excellente école. C'est une opportunité formidable de pouvoir concrètement mettre en pratique ce que dit la parole concernant les relations les uns avec les autres. Et je ne sais pas comment c'est chez vous, mais bon, je ne sais pas, je vais peut-être déborder. Par exemple, vous avez un problème avec la patience. Alors moi, je vais vous raconter une expérience que je vis pratiquement chaque fois que je vais en course et que j'accompagne quelqu'un qui est assez proche de moi, voyez. Donc, on arrive à la caisse avec le caddie, et puis, évidemment, la personne qui est juste devant nous, qui a tout déballé sur le tapis, elle a oublié de peser les légumes. Donc, évidemment, il faut qu'elle retourne au stand de légumes pour faire peser. Et puis, j'entends une voix, ah ben, évidemment, ça tombe encore sur nous. Et puis tu te rends compte. Alors, bon, ben, on passe. Et c'est notre tour. Et d'un seul coup, le rouleau de papier sur lequel on imprime la note, il est vide. Oh, alors là, c'est la totale. C'est la totale. Est-ce que vous croyez que c'est le hasard? Non. Quelqu'un a sûrement besoin d'apprendre ce qu'est la patience. Donc Dieu utilise des choses comme ça pour venir râper, limer... Vous voyez, des traits de caractère dont nous avons besoin que nous nous affinions. Voilà, tout simplement. Ben oui, c'est comme ça que Dieu s'y prend. Il ne faut pas croire que la patience, c'est un gros bloc de marbre qui va nous tomber comme ça sur la tête et puis qui va nous descendre jusque dans le fond du cœur. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes d'accord un peu avec ça? Non, le pasteur, il... Enfin, moi, j'illustre ça comme ça. Alors, que veut dire « veillons les uns sur les autres » dans le cadre de l'Église ? Bien, veiller sur les autres, c'est pas espionner. Ni agir sans respecter la vie privée des autres, ni obliger les autres à tout dire de sur eux. C'est pas faire du voyeurisme. Veiller les uns sur les autres, c'est s'observer mutuellement en nous demandant de veiller les uns sur les autres. La parole de Dieu nous encourage à considérer avec soin notre frère ou notre sœur, penser à eux, essayer de comprendre la réalité derrière les apparences. Souvent, quand je rencontre quelqu'un que je connais, alors vous savez, bonjour, toi ça va, moi ça va, nous ça va. Mais en fait, on sent que ça ne va pas tout à fait bien, quoi. Mais la personne nous dit « oui, mais ça va, c'est cool ». Bon, bah, c'est pas la peine de la secouer comme un poignet pour qu'elle nous raconte ce qui ne va pas. Faut respecter. Hein. Donc, d'autres versions du Nouveau Testament le disent d'une manière différente. Observons-nous mutuellement, ayons l'œil ouvert les uns sur les autres, faisons attention, ayons soin, ayons le souci des uns des autres. Pensons à eux. Nous pourrions donc retenir que veiller sur l'autre, c'est penser à l'autre, s'intéresser à l'autre, se soucier de l'autre, prendre soin de lui parce que nous l'aimons. Il y a une chose étonnante. Veiller ou surveiller dans la Bible, c'est plutôt une responsabilité qui est donnée aux responsables d'une église. Après tout, ils sont payés pour ça. Hein. Donc, qu'ils fassent leur job. Mais ici, on voit que cette responsabilité est donnée à chaque croyant. Oui, mais alors là, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que chaque croyant a la capacité d'écoute et de veiller? Par exemple, un tout petit enfant n'a pas la capacité de veiller sur ses parents. Et le nouveau-né spirituel, est-ce qu'il a la capacité de veiller sur quelqu'un qui a plusieurs dizaines de vies chrétiennes? Ben, bon, je ne vais pas donner de réponse, mais c'est à vous de l'imaginer. Deuxième question, pourquoi veiller les uns sur les autres? Dans le verset 24, version Parole vivante, l'auteur nous donne le but. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Donc, le but a juste un seul mot dans ce texte, c'est encouragement. Dieu veut que nous soyons des personnes qui poussons, qui encourageront les autres à l'action. Et quelles sont ces actions? C'est l'amour et la pratique du bien. Parce que l'amour et la pratique du bien, ça marche en parallèle, toujours, ça marche toujours ensemble. On ne peut pas aimer sans pratiquer le bien. On ne peut pas pratiquer le bien sans amour. L'un des projets de Dieu pour son Église est que nous veillons à ce que chacun soit poussé, encouragé à aimer et à pratiquer le bien. Je le dis autrement. Chaque personne qui vit une relation avec nous doit pouvoir dire « Ce temps que j'ai passé avec lui ou avec elle, mais alors, ça m'a fait un bien fou, un bien fou. » Encore une anecdote que je vivais régulièrement quand je visitais une certaine personne dans l'église là-bas. Je savais d'avance ce que j'allais entendre. C'était toujours... Allez. Les mêmes récits. Et moi, j'écoutais. J'écoutais. Et quand je disais au revoir, que, après avoir prié, après avoir lu une lecture, elle me disait, « Oh, pasteur, ce que vous m'avez dit, ça m'a fait tellement de bien. » Mais j'ai rien dit. J'essayais de me rappeler ce que j'avais pu dire, mais je m'étais tu, je n'avais fait que d'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est seulement la présence. Seulement la présence. Dans la lettre aux Hébreux, il y a encore deux autres buts. Au chapitre 13 et verset 12, nous disons « Prenez donc bien garde, mes frères, et moi j'ajoute mes sœurs, parce que parfois on a l'impression quand même que la Bible, elle est un peu... Que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Le terme « veiller » ici n'y est pas. Mais prenez donc bien garde, ça va dans ce sens. Nous devons veiller à ce que personne ne se laisse séduire par le péché. Et Seigneur, tu sais qu'aujourd'hui, combien ça peut être difficile. Autre texte, Hébreux 12 et verset 15. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant d'autres parmi vous. Nous devons veiller donc à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu donne toujours sa grâce. Et je répète que sa grâce au quotidien, elle est suffisante pour la journée que vous avez à vivre. Mais c'est nous qui pouvons nous en priver. On peut s'en éloigner. Comment? Ben, tout simplement en vivant dans le péché, en persistant même à vivre dans le péché. Et le texte nous donne une petite liste, mais bon, elle pourrait encore être bien longue. Par exemple, comme le manque de zèle spirituel, l'amertume envers les autres, l'immoralité sexuelle, et le fait de nous laisser influencer par ceux qui vivent sans Dieu. Alors, pourquoi devons-nous veiller les uns sur les autres? Pour nous encourager mutuellement à aimer et à pratiquer le bien, et pour ne pas tomber dans le péché. et enfin pour ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Alors je peux résumer les choses ainsi, nous devons veiller les uns sur les autres pour bénéficier de la grâce de Dieu, vivre une vie sainte, une vie sanctifiée et aimer en action. N'est-ce pas un programme enthousiasmant, frères et sœurs? Ouais, ah, alors moi, quelqu'un qui reconnaît le bien fondé. Troisièmement, troisième question, comment, maintenant on est dans le comment, veiller les uns sur les autres? Eh bien, je crois que en restant attachés à notre espérance. Comment pouvons-nous veiller les uns sur les autres pour qu'ils soient encouragés si nous-mêmes, nous sommes, comment dirais-je, en dépression spirituelle? Ça arrive. Oui. Ce qui nous permet d'encourager les autres croyants, c'est d'être nous-mêmes encouragés par notre espérance du retour du Seigneur Jésus. Moi, personnellement, j'attends ça tous les jours. Parce que je lui ai déjà dit, Seigneur, si tu pouvais me faire la grâce que de mon vivant, je puisse vivre cette expérience. Bon, je vous ai dit, je suis un peu curieux, mais j'aimerais bien vivre ça en direct. Un jour, Jésus revient, on le sait, ça, on l'a. Et moi, personnellement, quand je vois tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, je dis, mais Seigneur, dépêche-toi, parce que ça commence à devenir chaud, là, sur la terre. D'un côté, les autres iront en enfer, parce que ils auront rejeté Dieu et sa volonté dans leur vie. L'enfer, c'est un lieu qui est terrible, terribles angoisses, où il n'y a que de souffrance, que de douleur, que de pleurs. Alors, tout ce que je peux vous conseiller, c'est faites tout votre possible pour ne pas y aller. De l'autre côté, les autres iront dans la présence du Seigneur pour l'éternité, dans la présence de Dieu, il n'y aura plus de péché, plus de souffrance. Alors ça, c'est un sujet de débat entre Chantal et moi, parce qu'elle a fait que de me dire « on ne se reconnaîtra plus, je ne serai plus ta femme », etc. Et là, moi, ça me pose quelques questions. Mais bon, ça, c'est un débat théologique entre nous. Bon, j'ai l'impression que je suis en train de vous raconter des choses là, personnelles. Imaginez, nous nous aimerons totalement et parfaitement sans aucune trace de péché. Alors ça, on ne peut même pas s'imaginer ce que c'est. Plus d'égoïsme, plus d'orgueil, plus de favoritisme, plus de préjugés. C'est incroyable ce que Dieu prépare pour ceux qui viennent à lui. Nous qui sommes croyants, enfants de Dieu, nous qui avons reçu l'assurance de cette présence de Dieu dans nos vies, restons attachés à cette espérance, à notre espérance. Et si cela est adressé à des croyants, c'est parce que nous pouvons la perdre de vue dans notre vie au quotidien. En Matthieu 24, verset 12, Jésus parle de la fin des temps. Il dit « Le mal ne cessera de croître et l'amour du plus grand nombre » et là il parle des croyants « se refroidira ». Nous savons que les soucis de la vie, les plaisirs du monde, toute autre chose peuvent nous éloigner, nous écarter de notre espérance. Mais bien plus, dans les derniers temps, notre foi sera mise à rude épreuve. Alors, il est vrai, mais si on réfléchit dans notre société aujourd'hui, vous savez, le mal, tout ce qui est fait pour nous détourner, c'est quelque chose de très subtil. Dans d'autres pays, c'est la persécution morale, physique, les églises sont brûlées. Mais chez nous, c'est autrement beaucoup plus subtil, beaucoup plus pointu dans les consciences. Nos libertés, elles sont en train de se réduire à une peau de chagrin, si on réfléchit un peu. Bon, donc, restons attachés à notre espérance. Et c'est adressé à des croyants, c'est parce que, comme je l'ai dit, on peut très bien déraper et prendre un autre chemin rapidement. Dans les derniers temps, notre foi sera mise à rude épreuve. Donc nous sommes avertis. Dès l'instant que nous sommes avertis, quand on sent que quelque chose se passe, que la communion avec le Seigneur n'est plus tout à fait au beau fixe, Alors il doit y avoir des réflexes qui doivent se mettre en service, en route. Donc voilà pourquoi nous devons nous attacher à notre espérance et ne jamais la perdre de vue. Je suis toujours dans le comment veiller sur les autres. Pour veiller les uns sur les autres, nous devons prendre la décision, faire le choix de nous soucier des autres, de prendre soin des autres. C'est un choix que je dois faire. Ce n'est pas une chose naturelle, ni automatique pour tous. Veiller les uns sur les autres doit donc devenir un objectif dans notre vie au quotidien. Mais pour veiller les uns sur les autres, nous devons aussi accepter que d'autres s'intéressent à nous. Devenir membre de la famille de Dieu, c'est abandonner une petite part de sa liberté personnelle. Moi, j'en ai entendu dire, enfin, pas ici, hein, toujours, je précise, parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendu entre vous et moi. Moi, je suis chrétien, mais je suis assez grand, assez intelligent, assez beau pour savoir ce que j'ai à faire et personne n'a quoi que ce soit à me dire. Bon. Et après, on observe. Et quand on voit le résultat, c'est la glissade et dans le ravin, spirituellement parlant. Bon. C'est accepter que d'autres s'intéressent donc à notre vie, à notre état spirituel, et nous pose des questions pour pouvoir prendre soin de nous. Moi, parfois, je suis pas tellement centré sur moi-même, mais une petite parole qui me fait voir qu'on s'intéresse à moi, ça fait pas, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal non plus. Vous voyez ? Donc, par exemple, je demande parfois à une personne, un chrétien, par exemple, au fait, ça fait longtemps qu'on s'est vu, qu'on s'est rencontré. Comment ça va le Seigneur chez toi ? La personne elle me regarde comme si j'avais sorti une énormité. Non, en fait, je demande comment va ta relation avec Dieu ? Parfois, pour ne pas dire souvent, la personne est surprise, oui, de cette question. Mais, chers amis, apprenons à nous intéresser les uns aux autres, au point de pouvoir leur poser de telles questions. Bien sûr, en laissant la liberté à l'autre de répondre ou non. Toujours respecter l'autre. Mais pour arriver à un tel niveau de relation, il faut avoir un haut niveau de confiance. Alors la confiance, je vais vous dire comment je me représente la confiance. La confiance, c'est un grand réservoir. Ce réservoir se remplit au goutte à goutte. Donc, vous voyez, ça peut durer un certain temps et un temps certain. Et ce réservoir peut se vider en un clin d'œil par hectolitre. Et là, je parle quand quelqu'un vous a trahi, par exemple. Et là, je sais de quoi je parle, parce que dans notre vie, ça nous est arrivé souvent. Mais je suis encore là, grâce à Dieu. Évidemment, il faut avoir un niveau de confiance assez élevé. Hélas, et là je dois le dire, il y a eu des ratés dans beaucoup d'églises, des maladresses. Vous avez peut-être vécu cela. L'un a dit à l'autre des choses très personnelles à garder pour lui. Puis l'autre a divulgué, colporté les confidences. Et cela blesse tellement. Après avoir vécu cela, on se replie sur soi-même. On ne fait plus confiance et l'on ne parle plus de nous. C'est une triste réalité. Alors, voilà pourquoi nous devons tout faire pour protéger l'unité de l'Église, l'unité de la foi, de respecter les uns les autres, garder les sujets confidentiels et être des personnes de confiance. Si on sait que ma langue, elle va plus vite que ma pensée, on doit être honnête vis-à-vis de celui qui me confie quelque chose. Je dois lui dire, écoute Maurice, oui, je vois que tu voudrais dire quelque chose pour te décharger, Mais tu sais, moi, je n'ai pas la capacité de garder des choses. Tu sais, moi, je suis capable de raconter tout et n'importe quoi. Alors, non, mais il faut être honnête. Vous n'avez pas appris à cultiver la confidentialité. Il faut être honnête vis-à-vis de l'autre. Il faut lui dire, non, écoute, je te conseille d'aller trouver quelqu'un d'autre, mais moi, non, moi, je ne veux rien savoir. C'est indispensable pour un amour vrai, plus fort et plus profond dans l'Église. Je suis toujours dans le comment veiller sur les autres, en passant du temps régulièrement avec la famille de Dieu. D'ailleurs, l'auteur ici nous dit, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Bon, et là encore une fois, je ne parle pas d'ici, du 64 Guillemets. L'auteur parle d'un rassemblement en un certain endroit, c'est du bon sens. Il est impossible de veiller les uns sur les autres si nous avons rarement des relations avec la famille de Dieu. La meilleure façon de veiller les uns sur les autres, c'est bien sûr de passer du temps avec eux. La présence au culte, l'étude biblique, les réunions de prière dans les maisons, tout cela c'est indispensable. Participer aux diverses activités. Comment veiller sur les autres? Hébreux 10, verset 25, version seconde, nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et la version parole vivante dit « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que nous vous voyez se rapprocher le grand jour du Seigneur. » Dans la région où nous étions, il y avait ce qu'on appelait, en fait tous les pasteurs disaient ça, parlaient de cela, de ce phénomène, il y avait ce qu'on appelait le tourisme évangélique. Bon, vous ne voyez pas ce que c'est. Non ? Je vous dirai ça entre parenthèses après. Dans ce texte, il y a le mot « encourage ». Mais le mot le plus juste, c'est « exhortation ». Pourquoi ? Parce que le mot « exhortation » ne se limite pas à l'encouragement. Il y a dans ce mot plusieurs autres choses comme « fortifier, réconforter, consoler, instruire, conseiller » et même « reprendre avec amour ». Donc, pour veiller sur l'autre, je dois pouvoir faire tout cela dans un élan d'amour. Je n'ai pas fini avec le comment. Comment ? En le vivant à trois niveaux. Il est bien parce que il est bien d'avoir quelqu'un au-dessus de nous. Une personne de référence, plus mature dans la foi. Par exemple, moi, dans le ministère pastoral, et encore même aujourd'hui, j'ai ce que l'on appelle un père spirituel. Et cette personne, je peux la joindre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Une personne à côté de nous, c'est-à-dire un conjoint, des amis, qui veille sur nous. Et enfin, quelqu'un en dessous de nous, c'est-à-dire une personne dont nous nous sentons responsables de veiller pour l'encourager, la conseiller, l'avertir et au besoin la reprendre avec amour. Et quand je dis au-dessus, en dessous, à côté, je ne suis pas du tout en train de donner des niveaux de valeur parce que chacun a la même valeur aux yeux du Seigneur. Mais nous avons des responsabilités différentes. C'est juste un cadre bienfaisant dans lequel quelqu'un veille sur nous et où nous veillons sur une autre personne. Donc je résume ce que j'ai dit. Comment veiller sur les autres en restant attaché à notre espérance, en prenant la décision de vraiment nous soucier des autres et en acceptant que les autres se soucient de nous, en passant du temps régulier avec la famille de Dieu, en exhortant, c'est-à-dire selon les besoins de l'autre, l'encourager, le fortifier, le réconforter, le consoler, l'instruire, le conseiller, le reprendre avec amour ou l'avertir. Donc, en le vivant à trois niveaux. D'abord, avoir quelqu'un au-dessus de nous, une personne de référence, plus mature dans la foi. Avoir quelqu'un à côté de nous, un conjoint, des amis qui veillent sur nous. Et enfin, avoir quelqu'un en dessous de nous dont nous sommes responsables de veiller pour l'encourager, le conseiller, l'avertir et au besoin de le reprendre. Je vais terminer avec quelques questions que je vous livre, questions personnelles, et vous pourrez y réfléchir peut-être en groupe de maison, par exemple. Avons-nous accepté que d'autres s'intéressent à nous? Osons-nous nous dévoiler un peu plus dans les relations, sinon pourquoi? Nous intéressons-nous concrètement aux autres membres de notre communauté, à leur état spirituel, ou laissons-nous ces questions aux spécialistes, comme le pasteur, les anciens ou autres? Que faisons-nous pour garder nos frères et sœurs, particulièrement les jeunes de l'Église, de la séduction du péché? Quels efforts faisons-nous pour comprendre réellement nos frères et sœurs, pour aller au-delà des apparences et de leurs motivations profondes? Avons-nous des occasions, par exemple ici, dans votre Église, où il est possible de parler de ses problèmes, de sa vie spirituelle, s'exhorter mutuellement? Avons-nous personnellement quelqu'un au-dessus de nous, personne de référence plus mature dans la foi, quelqu'un à côté de nous qui veille sur nous, ou avons-nous quelqu'un sur qui nous nous sentons responsables de veiller pour l'encourager, le conseiller, l'avertir et au besoin le reprendre? Et enfin, je termine. Rappelons-nous ceci. Dieu notre Père veille chaque seconde sur nous. Et il attend de nous que nous veillons les uns sur les autres. J'ai un souhait. Mon souhait est que l'Église évangélique baptiste de Clermont soit un lieu où nous veillons les uns sur les autres, afin que chacun soit encouragé dans ses combats, dans sa marche avec Dieu, que ce souci des uns et des autres nous pousse tous à davantage à aimer et à pratiquer le bien, que ce qui nous motive à veiller sur les autres, ce soit l'amour de Dieu, le désir de grandir ensemble, et aussi notre espérance du retour de Christ et de la vie éternelle que nous passerons. Et là, c'est vraiment un souhait le plus profond. Ensemble, je veux tous qu'on se retrouve là-haut pour faire la fête, en présence du Seigneur. Parce que ça, c'est aussi la volonté du Seigneur, c'est que aucun ne se perde, mais que tous soient emmenés dans sa gloire. Amen. Prions un instant. Seigneur, nous pouvons avoir le sentiment peut-être que ce que nous avons entendu ce matin, c'est au-dessus, c'est au-delà de mes forces, de ce que je peux faire, de ce que je peux m'engager. Mais Seigneur, ce qui est difficile demeure possible parce que nous avons à nous souvenir que ta grâce nous accompagne. Et ce qui est difficile est possible avec ta grâce. C'est vrai que pour veiller sur mon frère, sur ma sœur, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc il faut bien qu'il y ait autre chose dans mon cœur. Que je sois moi-même saisi, rempli de ton amour, de tes sentiments que toi, Jésus, tu avais quand tu étais sur cette terre. Alors, pour ma part, aide-moi. Aide chaque frère et sœur ici présent à le mettre en pratique afin que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur. Merci, Père. Amen.